Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez. L'antenne vous appartient comme tous les jours, vous le savez, à cette heure-ci, RFI vous donne la parole et nous sommes vendredi et le vendredi plus que jamais, eh bien, vous vous exprimez sur les sujets qui vous intéressent, vous nous interpellez sur tous les événements qui vous ont marqué cette semaine dans l'actualité française, africaine, internationale. C'est la libre antenne 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France et vous continuez évidemment à commenter l'actualité sur les réseaux sociaux et sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, c'est votre rendez-vous quotidien avec la rédaction d'RFI. Ce sont vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. Certains confrères sont déjà installés dans ce studio pour vous répondre. Là aussi, eh bien, n'attendez pas le début de l'émission pour nous contacter. Vous pouvez le faire tout au long de la journée. On attend vos questions, évidemment, et on a besoin de vos questions en amont pour pouvoir contacter nos experts ici au sein de la rédaction, mais nos envoyés spéciaux, nos correspondants, et en parlant de correspondants, justement, nous allons commencer avec Léa-Lisa Vesterov, la correspondante d'RFI en République démocratique du Congo. Bonjour Léa-Lisa.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Je suis ravi de vous entendre. C'est vrai qu'hier, on a eu un problème technique qui vous a empêché de finir de répondre à Songa, qui nous appelait de Bukavu. Songa qui nous demandait pourquoi de nombreux ministres avaient récemment démissionné au Congo-Kinshasa. Il faut quand même rappeler que c'est une période pour le moins agitée sur la scène politique. Il y a eu des démissions, des révocations, un nouveau gouvernement, de nouvelles démissions. Bref, depuis 15 jours, le camp de la majorité présidentielle traverse une zone de turbulence. Comment expliquer donc toutes ces démissions, notamment au sein du gouvernement?
Eh bien, ces démissions, alors pas seulement des ministres d'ailleurs, mais aussi d'autres figures des grandes institutions de la République ont démissionné au départ en solidarité avec leur formation politique. Car leurs partis se sont en fait fait exclure de la majorité présidentielle quelques jours avant, après avoir écrit une lettre au président Joseph Kabila, une lettre qui a été jugée incendiaire. Et tout cela, les démissions, la lettre, c'est bien sûr par rapport à des inquiétudes quant à la tenue des élections, notamment la présidentielle en 2016, cette dizaine de démissionnaires en fait s'inquiètent et protestent contre ce qu'ils appellent une stratégie suicidaire du gouvernement, une stratégie qui viserait en fait à retarder la tenue de la présidentielle par tous les moyens pour jouer les prolongations en 2016. Selon eux, les retards pris dans l'exécution du calendrier électoral par exemple sont intentionnels pour retarder ensuite la tenue de la présidentielle fin novembre 2016 et éviter l'alternance à la tête du pouvoir, comme le prévoit la Constitution. Exemple, des élections provinciales et locales devaient se tenir dans 3 semaines. Elles ont été reportées sans qu'une nouvelle date n'ait été fixée. 5 autres scrutins doivent ensuite avoir lieu. Il y a aussi les élections des gouverneurs des 21 nouvelles provinces qui n'ont pas encore été organisées et il n'y a pas de date. Une proposition de loi sur le référendum. Bref, tout cela, selon eux, indique clairement qu'il y a une stratégie du président, en tout cas du pouvoir pour se maintenir, et ce, au détriment de la volonté du peuple, disent-ils, d'avoir une alternance en 2016.
Ouais, et du coup, quelle est la réponse du gouvernement à Kinshasa?
Eh bien, 2 choses. Pour ce qui est des accusations lancées par ses ex-ministres, ses ex-membres de la majorité, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, les accuse, je cite, de procès d'intention. Selon lui, rien ne prouve qu'il y ait une volonté de violer la Constitution. Au contraire, le redécoupage des nouvelles provinces, l'élection, l'organisation des élections locales, par exemple, sont par cette constitution. Enfin, le porte-parole du gouvernement rappelle que Joseph Kabila s'est toujours engagé publiquement à veiller au respect de la constitution. Ses craintes ne seraient donc pas fondées, mais plutôt une façon de faire de la politique, selon lui, et de mener campagne. La deuxième réponse, c'est que le président lui-même a en fait remanié le gouvernement. Il a exclu, nettoyé, remplacé tous les membres de ce fameux G7, cette coalition de frondeurs, 8 ministres au total, pour les remplacer par des gens peu connus pour la plupart. départ, mais qui sont des fidèles de la majorité. Il a aussi choisi de garder son premier ministre, Matata Ponyo, et son équipe rapprochée. Une façon, sans doute, de montrer que tout ce bruit et ces démissions fracassantes ne doivent pas influencer l'action gouvernementale.
Et on aura l'occasion dans la Libre Antenne, dans 20 minutes maintenant, de commenter ces nombreuses démissions, et notamment celle survenue cette semaine de Moïse Katumbi, le puissant gouverneur de la région du Katanga, qui a démissionné et qui a claqué la porte du parti présidentiel. Joseph est avec nous, il nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Joseph.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs d'RFI.
Je parlais à l'instant de cette région du Katanga, vous avez justement une question là-dessus.
Oui, en fait, je suis à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, et j'observe un peu l'actualité politique de mon pays. J'ai une préoccupation concernant les G7.
Oui.
Je voudrais connaître quelle est la popularité du G7 au Katanga, le Katanga qui est le fief électoral du président Joseph Kabila.
Ah, c'est une bonne question, Léa Lisa Westerhoff. Est-ce que les frondeurs sont populaires dans cette région du Katanga?
Alors, je ne pourrais pas m'engager sur la popularité de cette nouvelle plateforme, mais ce qui est sûr, c'est que trois chefs de parti, membres de ce fameux G7, viennent du Katanga. Alors, il y a d'abord Charles Mwando Nsimba, le président de l'Union nationale des démocrates fédéralistes, l'UNADEF, qui était l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale congolaise, donc un personnage plutôt important, mais aussi Gabriel Kyungu, le président de l'UNAFEC, l'Union nationale des fédéralistes du Congo, et président de l'Assemblée provinciale du Katanga. Ces deux hommes sont originaires du nord du Katanga, comme le président Joseph Kabila lui-même. J'imagine qu'ils sont donc en mesure potentiellement de lui faire concurrence. Enfin, il y a aussi Danny Banza, le chef de l'ACO, l'avenir du Congo, qui est aussi originaire de cette même province du Katanga. Trois chefs de parti sur sept, ça fait donc mathématiquement une bonne assise pour cette plateforme dans cette région clé, en effet, qu'est le Katanga, car c'est celle dont est originaire le président Joseph Kabila, mais c'est aussi l'ancienne province la plus grande du pays et la plus riche, avec toute l'industrie minière qui est concentrée. Alors, vient s'ajouter à cela, vous en parliez à l'instant, la démission de Moïse Katumbi avant-hier. Alors, lui est carrément l'ex-gouverneur de cette province et plutôt populaire, puisque c'est aussi le président du club de foot, le tout-puissant Mazembe, qui est basé à Lubumbashi. Alors, rien ne dit encore que Moïse Katumbi va rejoindre cette plateforme de cette partie appelée G7, mais déjà, la démarche est similaire. Et dans tous les cas de figure, dans cette recomposition du champ politique et ce divorce de la majorité auquel on est en train d'assister ces derniers jours, il y a visiblement un fort poids qui est joué par le Katanga. À voir maintenant quelles vont être les nouvelles alliances qui vont sortir de cette réorganisation.
À suivre donc. Merci beaucoup Léa Lisa Westerhoff en direct de Kinshasa, République démocratique du Congo. On en parlera de toute cette actualité dans la Libre Antenne. Toufik Benaïchouche, journaliste au service international d'RFI, est à mes côtés. Bonjour Toufik.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. On vous a demandé de venir. On a reçu ce matin au Standard une question concernant la Syrie. Bonjour Maki.
Oui, bonjour Juan et bonjour à Toufik à côté.
Bonjour.
Vous êtes à Conakry en Guinée. Vous avez donc des questions sur les rebelles syriens, certains rebelles syriens.
En effet Juan, en effet. Mais avant, permettez-moi s'il vous plaît de souhaiter bonne fête d'indépendance à tous les Guinéens.
Ah, bien,
voilà.
Très bien.
Récemment, le CENTCOM, le commandement des forces américaines au Moyen-Orient, a annoncé que les rebelles syriens formés par les États-Unis ont réuni une partie de leur équipement et de leurs munitions au front Al-Fa, qui est la branche syrienne dans l'Al-Qaïda, je crois. Alors, d'abord, j'aimerais savoir de quel type d'équipement il s'agit au juste. Ensuite aussi, si vous permettez, quelles sont les raisons qui ont poussé ces Syriens à se débarrasser de ces équipements? Et pour terminer rapidement, quelles pourraient être ses conséquences sur les relations entre les États-Unis et les rebelles syriens?
Ouais, c'est vrai que ça paraît surréaliste. Certains rebelles syriens, formés par les États-Unis, ont remis une partie de leurs armes à la branche syrienne d'Al-Qaïda, Toufik Benaïchouche. Pour planter le décor, il faut quand même rappeler que depuis le début de l'année, les États-Unis ont mis en place un programme chargé de former des rebelles, des combattants.
Oui, alors vous savez, puisque on le dit avec raison, les frappes aériennes à elles ne suffisent pas, il faut des hommes sur le sol. Donc les États-Unis ont débloqué 500 millions de dollars pour constituer une petite armée dont l'objectif serait de combattre l'État islamique. Petite armée théoriquement de 15 000 hommes, et rien que pour l'année 2015, 5 000 de ces soldats ont été constitués, entraînés. C'est des soldats qui sont triés sur le volet, on n'y entre pas comme on veut dans ces centres d'entraînement.
Ils sont formés et entraînés en Turquie et en Jordanie.
Essentiellement en Turquie et en Jordanie, c'est ça, vous avez raison. Ça a commencé en juillet dernier, et en juillet dernier, 54 combattants sont jugés prêts à aller combattre, donc sur le terrain. Et ils sont constitués en une division qu'on appelle la division 30. Deux mois plus tard, c'est-à-dire il y a quelques semaines seulement, le commandant des forces américaines au Moyen-Orient, Lloyd Austin, c'est ce que vient de nous rappeler nos auditeurs, devant le Sénat américain, est obligé de reconnaître que seuls 4 ou 5 de ces soldats, donc formés avec beaucoup de d'expertise. En fait, vous savez, ce genre de soldat, un soldat lui seul est une véritable arme de guerre. Donc, il y a simplement sur avec tout l'argent dépensé, 4 ou 5 de ces soldats qui continuent de se battre ou qui tentent de combattre sur le terrain. Que s'est-il passé? La cinquantaine de soldats dont on parle, encore une fois super entraînés, avec une trentaine de véhicules tout terrain sophistiqués, avec des mitrailleuses Browning qui sont des mitrailleuses extrêmement puissante et fiable, bref, avec armes et bagages, passe à l'ennemi. Alors, non pas dans les rangs de l'État islamique, mais rejoignent le front al-Nusra.
C'est-à-dire que ces combattants ont rejoint la branche syrienne d'Al-Qaïda.
Exactement. Alors, voilà, ça c'est les faits, donc c'est plutôt une tragédie ou alors une farce, c'est à nos auditeurs de juger.
Pour quelle raison?
C'était mal parti. C'est-à-dire que les Américains ont dit à ces hommes, donc ils ont encore une fois choisi, mais très soigneusement, votre mission, ce sera d'aller combattre Al-Qaïda qui menace la Syrie.
Mais d'aller combattre l'État islamique.
L'État islamique.
L'organisation de l'État islamique.
Oui, vous avez raison. L'État islamique, donc en Syrie, qui menace donc toute la région. Mais les Syriens, eux, ne comprennent pas. Ils se disent, mon premier ennemi, à moi, c'est Bachar el-Assad. C'est à cause de lui que depuis plus de 4 ans, on connaît la tragédie que tout le monde connaît, donc. C'est lui l'ennemi à abattre. Or, il se trouve que al-Nusra se bat contre Bachar el-Assad, et se bat également, puisqu'il y a des bisbilles internes, si vous voulez, dans la mouvance islamiste, se bat également contre l'État islamique. Donc moi, je suis syrien, je veux libérer mon pays, je veux en finir avec la dictature, le sang et tout.
Il faut d'abord attaquer le régime de Bachar el-Assad.
Voilà, c'est ça, cible prioritaire. Donc il y a déjà une mésentente, si vous voulez, c'est mal goupillé au départ, comme on dit familièrement.
Du coup, c'est incontestablement un camouflet pour les Américains.
C'est vraiment c'est une tragicomédie. Mais il y en a beaucoup qui ont des mots très durs aux États-Unis, surtout, qui parlent de véritables farces. C'est pas sérieux, est-ce que vous connaissez-vous des exemples dans l'histoire où on met sur pied une armée avec un objectif X et puis finalement, tous nos efforts se retrouvent à prêter concours à al-Nusra, c'est-à-dire la branche armée d'Al-Qaïda.
Et les Américains, malgré tout, maintiennent ce programme de formation?
Oui, parce qu'ils se disent va falloir redéfinir les objectifs, et puis ils n'ont pas d'autre solution. S'ils veulent des hommes sur le terrain qui relaient, la lutte qui se mène contre l'État islamique par voie aérienne, il faut des renseignements sur place, sur le terrain et tout. On a besoin d'hommes, donc ils continuent. Les 500 millions de dollars sont déjà budgétisés, dépensés en partie, et des soldats continuent donc, syriens, continuent à s'entraîner dans les camps d'entraînement, vous l'avez dit, en Turquie et en Jordanie. Mais ça pose encore un autre petit problème qui complique tout. Il y a une certaine branche de la CIA aux États-Unis qui considère, devant les événements qui se déroulent depuis des années maintenant en Syrie, qui sont tragiques, qu'après tout, pourquoi il ne faudrait pas jouer al-Nusra contre l'État islamique. al-Nusra, encore une fois, c'est Al-Qaïda, qui est en bisbille, qui a des problèmes et des divergences énormes avec l'État islamique sur le terrain. Donc,
des généraux américains disent en ce moment, il faudrait peut-être se rapprocher d'Al-Qaïda pour combattre
Al-Qaïda
Daesh.
En Syrie, c'est-à-dire al-Nusra. Voilà, mais ils le disent publiquement.
Merci beaucoup, Toufik Benaïchouj, d'être venu nous éclairer. Tierno nous rejoint au standard. Bonjour, Tierno.
Bonjour Monsieur Wan et bonjour à tout le monde, et surtout à votre infatigable équipe.
Merci pour eux, et c'est vrai qu'ils sont vaillants et courageux tous les matins. Vous avez une question, on va parler sport avec vous avez une question Formule 1, et notamment sur Lewis Hamilton.
Oui, en fait, comme vous le savez, le Grand Prix du Japon s'est tenu ce dimanche 27 septembre. Et j'ai une question sur le pilote britannique de Mercedes Lewis Hamilton, qui est la suivante d'ailleurs.
Oui.
Comment peut-on expliquer ses multiples victoires en Formule 1 de cette année ?
Alors, c'est vrai qu'il enchaîne les victoires, et d'ailleurs, grâce à la victoire de dimanche dernier, Lewis Hamilton a égalé le record de victoires d'Ayrton Senna. 41 victoires en Formule 1. Thomas de Saint-Léger est à mes côtés. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Vous allez essayer de tout nous expliquer, tout nous raconter. Comment expliquer le succès indiscutable de Lewis Hamilton cette saison ?
Bon, déjà, pour revenir sur la question de l'auditeur, c'est une domination qui est en réalité un peu plus ancienne. Elle date de la saison 2014. Lewis Hamilton, il est champion du monde en titre. La dernière, il avait remporté 11 Grands Prix sur 19, sacré avec 70 points d'avance sur son coéquipier Rosberg, presque 150 sur l'Australien Ricciardo sur sa Red Bull. Et c'est vrai que c'est un schéma qui se reproduit cette année, 8 victoires en 14 courses, il en reste 5. Rosberg, encore lui, est déjà à 48 points, Vettel à 59, l'autre Ferrari de Raikkonen a plus de 150 points. Alors pourquoi Lewis Hamilton engrange autant de succès ? Ben pour deux raisons. D'abord, il a la meilleure monoplace, la Mercedes, et aujourd'hui ça fait une sacrée différence. Et puis, tout simplement, il est supérieur à son coéquipier Rosberg. Ce sont deux pilotes de la même génération. Ils ont le même âge, deux frères ennemis en quelque sorte. Mmh. Mais le patron sur la piste, c'est clairement Hamilton. Il a une meilleure approche tactique et une meilleure science de la course.
Alors, qu'est-ce qui fait que les Mercedes soient meilleurs que les autres ?
Alors, le moteur d'abord. Le moteur Mercedes, c'est le plus puissant. Il est plus puissant que le Ferrari, plus puissant que le Renault. Et puis, Mercedes, c'est une écurie ancienne, très structurée, à la pointe au niveau technologique. Ça donne la monoplace la plus au point, la plus rapide. Elle est fiable aussi. Hamilton, il a abandonné qu'une seule fois cette saison, mais tout ça c'est finalement assez cyclique. Il y avait eu le cycle Red Bull, rappelez-vous, pendant 4 ans, les 4 titres consécutifs de Sébastien Vettel, quand il était dans l'écurie autrichienne. C'est au tour de Mercedes, bientôt peut-être que celui de Ferrari reviendra, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, diront les puristes, en tout cas, la Formule 1, c'est devenu une affaire, une bataille technologique, finalement, entre les écuries, plus vraiment un duel entre pilotes.
Ouais, en deux mots, il reste encore quelques courses d'ici la fin de la saison. Quel est le scénario ? Hamilton, une fois de plus champion du monde ?
A priori, on se dirige évidemment vers ça. Alors, ce qui pourrait changer, c'est que Rosberg, finalement, lui mette la pression, les deux coéquipiers qui se tirent la bourre, pourquoi pas se faire des coups bas, on l'avait vu l'an dernier, et puis dans ce cas-là, Vettel sur Ferrari pourrait en profiter. Mais pour les romantiques du sport automobile, je conseille plutôt la Formule E, ce sont des monoplaces identiques, électriques, et puis donc le pilotage qui fait la différence, et puis il y aura une course à Paris, au mois d'avril 2016, ce sera le premier Grand Prix dans les rues de Paris de la Formule E.
Voilà. Très bien.
La deuxième saison avec des anciens pilotes de Formule 1, Jacques Villeneuve, ancien champion du monde, ou Jean-Éric Vergne.
Très bien. J'ai appris enfin une fois de plus quelque chose grâce au service des sports. Merci à vous. À bientôt. On termine avec Adoum qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Bonjour Adoum.
Bonjour Juan.
Bienvenue. On vous écoute. Vous avez une question concernant l'Arabie Saoudite.
Oui, évidemment. Les autorités saoudiennes avaient affirmé récemment qu'ils devront exécuter un jeune de 21 ans. Alors ce jeune, lors de son arrestation, n'avait pas encore atteint l'âge de la maturité. Oui. À ce sujet, j'ai deux questions. La première, est-ce que l'accusé a eu droit à un avocat ?
Alors, a-t-il eu droit à un avocat ? On en parle beaucoup sur l'antenne des RFI et même sur tous les réseaux sociaux. Il y a une très forte mobilisation pour sauver ce jeune homme de 21 ans. Olivier Dallage, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et notamment de l'Arabie Saoudite. Ce jeune homme peut être exécuté, décapité à tout moment en Arabie Saoudite. Son procès a eu lieu il y a plus d'un an, il me semble, si ma mémoire est bonne. A-t-il bénéficié d'un avocat ?
On croit savoir que oui, parce que le procès était secret, donc on sait très peu de choses finalement. En revanche, il paraît à peu près sûr que son avocat, s'il en a eu un, n'a pas eu accès à toutes les étapes de la procédure. Il semble qu'il n'ait pas été informé de certaines audiences et que son client, donc le jeune Ali Al-Nimr, ne pouvait pas communiquer librement avec lui.
Ouais, jeune client qui a 21 ans aujourd'hui, 17 ans à l'époque des faits, puisque son crime c'est d'avoir manifesté il y a 3 ans contre la monarchie saoudienne. À l'époque il était lycéen. Adoum, vous avez une autre question ? Adoum ?
Des pressions dont dispose... Oui, j'ai une deuxième question. Quels sont les moyens de pression dont dispose la communauté internationale et les organisations internationales, en particulier l'ONU, pour empêcher cette exécution ?
Bah, je pense pas que ce soit tellement l'ONU, c'est plutôt la communauté internationale, comme vous dites, c'est-à-dire les pays, et un certain nombre de pays, discrètement pour beaucoup, publiquement pour d'autres, notamment la France, qui est rare, puisque la France a des rapports aujourd'hui très étroits avec l'Arabie Saoudite et ne la critique pas tellement, ont appelé à ce que le jeune Ali Hanneman ne soit pas exécuté. Je pense que cette pression internationale peut avoir un effet. Évidemment, je peux être démenti, mais je crois pas qu'il sera exécuté. D'ailleurs, son oncle, qui est un leadership très connu, Ali Hanneman, a comme lui été condamné il y a un an, en octobre 2014, à la décapitation et à la crucifixion. Il n'a toujours pas été exécuté parce que ça entraînerait des conséquences terribles dans la région.
Merci beaucoup Olivier Dallage d'être passé dans ce studio. À suivre la Libre Antenne dans 10 minutes.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie après le journal.